Radio de la Paix.
Reportage. Située à 3,5 km de Dakar, la capitale sénégalaise, dans l'Atlantique Nord et dans la baie de Dakar, l'île de Gorée fait partie des 19 communes de la capitale. Chargée de mémoire, elle est un site emblématique de la traite des esclaves en Afrique. Sa petite taille et sa proximité avec Dakar en font une destination facilement accessible par voie maritime pour les touristes. Dans ce reportage, Jean-Mélène Bitti nous plonge dans la fascinante histoire de Gorée, berceau ouest-africain de la traite négrière.
La traversée du Dakar à Gorée ne dure que 20 minutes. Une fois sur l'île, l'atmosphère accueillante dépourvue de voitures et de motocyclettes, les tons pastels des façades ainsi que son climat agréable séduisent les visiteurs. Au débarcadère, les touristes sont accueillis par des guides pour une visite complète. Alassane Barry, un Sénégalais de 32 ans, nous explique comment il tire sa subsistance dans cette activité.
Je suis né ici, j'ai grandi ici. Quand j'étais petit, je voyais tout le temps les guides expliquer l'histoire. Le maire nous a aidés à faire des formations. Gorée, il n'y a que du tourisme. Il n'y a pas un autre truc. À part le tourisme, il n'y a rien. Si tu n'es pas vendeur de colliers, de tam-tam, ou bien tu ne travailles pas dans les réseaux, ou bien tu n'es pas un guide, donc voilà. Ce n'est pas tous les jours que tu as des clients, mais bon, on essaye de gagner un peu, survivre, aider la population de l'île de Gorée, aider la famille. C'est ça, nous, on n'a que Gorée.
Placé patrimoine mondial, Gorée est l'une des plus petites communes de l'arrondissement de Dakar en termes de superficie habitée par des communautés diversifiées.
La largeur de l'île, 300 mètres, c'est là qu'on voit la mer de deux côtés, à gauche et à droite. 27 hectares, 1800 habitants, 1000 musulmans, 800 chrétiens, on vit en harmonie.
Ces bâtiments d'architecture coloniale forment une chaîne de 22 structures le long de la rive. Ces édifices possèdent des caractéristiques particulières, comme le souligne Alassane Barry, notre guide.
C'est la dernière maison des esclaves. Sur cette île, il y avait 28 maisons d'esclaves. Toutes les maisons au bord de la mer, c'était des maisons des esclaves. Chaque maison contenait 150 voire 200 esclaves. Et la première maison des esclaves, ça a été construit par les Portugais en 1536. Et là, c'est la dernière, construite par les Français, 1780-1784. Et moi, j'appelle pas maison d'esclaves, j'appelle maison d'esclaverie. Parce que là, nos ancêtres, on les préparait pour qu'ils deviennent des esclaves.
Alassane Barry nous immerge dans l'histoire de l'occupation successive de l'île et nous éclaire sur l'origine du nom Gorée.
C'est Hou de Red. Il a pris le go de Hou et le Red Reed. C'est ça qu'il a mélangé, ça fait Gorée. Et Gorée, bizarrement, c'est un nom wolof. Un nom wolof qui signifie la dignité. La dignité que nos ancêtres ont perdue ici pendant 4 siècles d'esclavage. Et les premiers pays européens à dormir ici, c'était les Portugais. En 1444, les Portugais après les Hollandais après les Français, les Anglais, à nouveau les Français.
Gorée vit de son histoire et de ses maisons d'esclaves. La plus récente de ces maisons est devenue l'une des principales attractions de l'île, la plus visitée, nous dit Alassane Barry.
Cette maison contenait 150 voire 200 esclaves, venaient de toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique noire, Ghana, Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali. Comme ici c'est enclavé, une fois on termine ici, tu ne peux pas s'enfuir. Et aussi sur sa position géographique, c'est pas loin aux Amériques du Sud, Brésil, Haïti, Cuba, Martinique, Guadeloupe. On les amenait là-bas pour qu'ils travaillent dans les champs, dans les plantations, canne à sucre.
La souffrance humaine et la cruauté de la traite négrière, la maison des esclaves, ce lieu symbolise la brutalité de l'esclavage, mais aussi la résilience et la dignité des millions de personnes qui ont été arrachées à leur terre natale. Dans cette maison des esclaves, chaque pièce a ses particularités. Les souvenirs sont encore vivaces au vu de l'atmosphère lourde qui y règne, rappelant ce qu'a été la traite négrière. Nous commençons par explorer la cellule des hommes et leur disposition conformément aux explications d'Alassane Barry.
Et les trois cellules que vous voyez là, et les deux là-bas en face, c'était la cellule des hommes. Chaque cellule, c'est 2060 sur 2060. On mettait 15 à 20 esclaves là. Ils étaient assis, le dos contre le mur, avec des chaînes, au cou et bras. Ces pauvres, on les libérait qu'une fois par jour pour le besoin. C'est pour aller aux toilettes. Le toilette des hommes, c'était à l'extérieur, au bord du quai, en les mettant des boulets en fer de 10 kg 300. Même en étant un très, très, très bon nageur, tu ne vas pas s'en sortir.
Malgré les conditions difficiles, les esclaves n'avaient pas le droit de se rébeller. Pour ceux qui tentaient de le faire, le traitement était sévère, visant à anéantir leur morale, comme l'explique notre guide.
En dessous des escaliers, les deux, on l'appelle récalcitrant. Les esclaves qui se rebellaient, qui se révoltaient, qui refusaient d'obéir, C'est là qu'on les mettait, c'était des cachots. C'était juste pour les casser moralement. Tu ne peux même pas rester debout, enfermé avec des barreaux en fer. Et le nombre de personnes qu'on mettait ici n'était pas plus important. Le plus important, c'est de refermer la porte après les esclaves. On peut mettre 5, 6, 7 esclaves. D'ailleurs, Nelson Mandela était venu ici en 1991. C'est là qu'il a dit qu'il va entrer. Il voulait rester ici 27 minutes. Pourquoi 27 minutes? Il était prisonnier 27 ans, mais le protocole ne l'a pas laissé. Il a laissé 5 à 10 minutes. C'était pour se recueillir, pour penser tout ce qu'il a vécu comme prisonnier. Quand il a sorti, il avait des larmes aux yeux. Là, c'est les hommes et là, c'est les femmes.
Dans cette maison, tomber malade était également impensable. La sentence était sans appel.
Là, les esclaves, ils n'avaient pas le droit de tomber malade. Si tu tombes malade, on te balance à la mer. Parce qu'ils ne veulent pas que tu contamines un autre esclave. On te considère comme une marchandise. On dit que cette marchandise est pourrie. C'est pour ça, à l'époque, il y avait beaucoup de requins qui rôdaient. Ces esclaves que j'étais, c'est ça qui attirait les requins.
À côté de la cellule des hommes se trouve la cellule des jeunes filles, très prisée par les colons. Alassane Barry nous en explique la raison.
C'était la cellule des jeunes filles vierges. À l'époque, si tu as les seins fermes et paumés, on dit que là, tu es vierge. Donc, si tu viens avec les seins tombés, on dit que tu n'es plus vierge. Et c'est la seule cellule qui avait des toilettes. Elles étaient privilégiées. Parce que le soir venu, ses maîtres descendaient, venaient choisir son épouse du soir, coucher avec eux, les violer. Si une fois que tu as la chance de tomber enceinte, automatiquement, tu es en liberté. Tu attends un enfant métis. Et ces enfants métis, mulâtres et mulâtresses. Et ces enfants sont dessus de leur maman esclave, nationalité européenne. Après, ces mamans femmes domestiques à Gorée ou bien à cellule du Sénégal. C'est pour cela, dans cette cellule, ces mamans se donnaient aux négriers pour avoir la liberté.
Adjacente à la cellule des femmes, il y a une cellule qualifiée de cellule meurtrière en raison de la mortalité élevée des enfants qui y étaient détenus.
Là, c'est la cellule des enfants. On l'appelle la cellule meurtrière. Pourquoi ? En cas d'épidémie, beaucoup d'enfants mouraient facilement. Ils sont fragiles. Et les enfants âgés de 7 ans jusqu'à 12 ans, une quarantaine d'enfants, entre ceux-ci couchés au sol, torse nu, serrés comme une boîte à sardines.
Les négriers avaient des méthodes particulières pour déterminer la valeur de chaque esclave, comme nous l'explique Alassane Barry.
Et la valeur d'un enfant, c'était les dentitions. La valeur d'une femme, c'était les seins et sa virginité. La valeur d'un homme, c'était son poids et de sa musculature. À l'époque, c'était un genre de troc. Un enfant, pour coûter un miroir ou bien un collier, une jeune fille vierge, un fusil, un homme de 60 kilos, un bail de vin. C'était le commerce triangulaire, Afrique, Europe et Amérique. Là-bas, les garçons, et là, c'était les filles. Ils étaient séparés.
Le voyage des esclaves nécessitait une préparation minutieuse, car tous n'étaient pas aptes à partir, nous dit Alassane Barry.
Donc là, c'est la cellule inapte temporaire. Les esclaves, on les posait, mais on posait seulement les hommes. Le poids était fixé à 60 kilos. Donc si tu as 60 kilos, tu as le poids. On t'amène te vendre. Moins de 60 kilos, on t'amène ici engraissé. Engraissé avec fèves de marée, appelé niébé chez nous. C'est une sorte haricot, haricot blanc, plus l'huile de palme. C'est ça qu'on mélange pour que les 3 prochains mois qui viennent, tu as ce poids. Parce que le voyage, ça a duré 3 mois, 3 mois et demi.
Notre guide revient sur les peuples qui étaient particulièrement bouillonnants durant cette période.
Et là, c'était la torture. On les frappait comme ça, avec des coups de fouet. D'habitude, les esclaves qu'on amenait ici plus, c'était des Sénégalais, des Ghanéens ou bien des Gambiens. En général, ce sont des vrais rebelles, ils ne se laissent pas faire. Comme nous, les Sénégalais, on a le sang bouillonnant. Si tu continues à te rebeller, on t'amène en Jamaïque. Il y a des prisons plus dures. Après, on va t'amener la Colombie, Mexique.
Et pour perpétuer le trafic, les négriers ont trouvé une solution, faire de la reproduction sur place, comme l'explique encore Alassane Barry.
Il y avait une ethnie qu'on appelait les Yoruba. Les Yoruba, ceux qui vivaient au Nigeria et du Bénin. Ils sont costauds forts et ils travaillent plus dans les plantations et c'était des éléments génitaux. On les prenait pour la reproduction. On prenait ces Yoruba avec des femmes esclaves, on les accouplait pour faire des bébés esclaves. C'est pour ça que ces Yoruba, on les appelait même esclaves bouc ou étalons.
Des familles entières étaient rassemblées dans cette maison, mais elles étaient ensuite séparées et envoyées dans des destinations différentes, ne pouvant jamais être reconstituées.
Et dans cette maison, on peut capturer toute une famille. On les séparait de cellules. Le papa dans sa cellule, la maman dans sa cellule et l'enfant dans sa cellule. Même en vendant, on les vendait aussi séparément. Le papa, on peut le vendre en Amérique, la maman au Brésil, l'enfant a été au Cuba. La séparation était total.
Au moment du départ pour le voyage, les esclaves devaient passer par une porte tristement célèbre, la porte du non-retour. Affirme notre guide, le cœur lourd d'amertume, il nous explique.
Là, c'est la fameuse porte qu'on appelle la porte du voyage sans retour. Une fois que tu franchis cette porte, c'est adieu l'Afrique, tu ne revenais jamais. Les yeux fixés à l'infini, à la souffrance. Et c'était une sélection, c'est les meilleurs qui partaient. Les plus forts, les plus costauds, les plus rapides, malades et vieillards exclus. À gauche et à droite, c'était la salle d'attente. C'est là qu'on les entassait pour attendre le bateau arrive. Le grand bateau était de loin, ne pouvait pas accoster. Donc les petites barques, qui venaient chercher les esclaves, ils sortaient deux à deux, accrochés des boulets en fer de 10 kg 300. Donc tu as deux possibilités. Arrivé aux Amériques, tu continues d'esclave, ou bien au cours de la route, si tu es malade ou agonisant, on te balance à la mer.
Avec une représentation d'un bateau à l'appui, il nous explique comment les esclaves étaient entassés dans les embarcations.
Les trous, c'était le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur du bateau. Mais ça, c'est juste une représentation. Mais ils mettaient beaucoup dans les bateaux. Parce qu'ils savaient au cours de la route, beaucoup allaient mourir.
Nous découvrons combien de temps durait le voyage vers l'Amérique. Un élément crucial de cette tragédie à la Sainte-Barry.
Et ces esclaves, ils attendaient ici pendant trois mois et demi. C'était la durée du voyage. Et ces pauvres, ils partaient jamais avec leur vrai nom. Ils partaient avec des numéros de matricule. C'était écrit en fer rouge. Une fois arrivés là-bas, ils prenaient le nom de leur maître, comme aux Amériques. Ils avaient des noms et des prénoms anglo-saxons. C'est pour ça qu'on a les noms Michael Jackson, LeBron James et Stephen Curry. Et au Brésil, ils avaient des noms et des prénoms portugais. On a les Neymar, les Vinicius, les Ronaldo, Cuba, espagnol, Antilles, français.
Le bilan de ces 400 ans de traite négrière est macabre, irrévocable et implacable, un bilan qui décrit l'horreur de cette traite, nous dit notre guide.
Ça a duré 4 siècles d'esclavage, ce qu'on a calculé, 15 à 20 millions de Noirs. Mais c'est une calcul hypothèse très, très, très basse. Si tu calcules seulement à l'île de Gorée, il y avait 28 maisons d'esclaves. Chaque 3 mois et demi, 28 bateaux quittaient. Chaque bateau peut contenir 200, 250. Eux-mêmes, ils mettaient beaucoup, parce qu'ils savaient au cours de la route, beaucoup allaient mourir. Sans compter au Ghana, Elmina, Nigeria, Badagry, Afrique du Sud, Cape Town, Bene Huida, Gambie, James Island. La liste est longue. Pourquoi ici? C'était sa position géographique. C'était stratégique.
Plusieurs célébrités ont visité Gorée pour montrer leur attachement à la douleur subie par les Africains. Et parmi les gestes le plus marquant, l'on trouve l'acte symbolique du pape Jean-Paul II.
La famille Jackson 5 était venue en 1974. Barack Obama 2013, Mandela 91, Pape Jean-Paul II 92, il y a Gaddafi. Il y en a beaucoup de célébrités, ils sont venus. Alors ici, on avait construit un pont en bois de rogné. C'est là que le Pape Jean-Paul II, en 1992 février, il a demandé pardon à l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il savait que des missionnaires catholiques étaient impliqués. Et Boubacar Joseph Niaï, le premier conservateur de la maison esclave, un grand monsieur. Sa réponse est de nous, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Même Bob Marley, il voulait venir ici, mais après il est décédé. C'est sa maman qui est venue. Avec leur frère, la famille. J'ai oublié la date, mais c'était vers 80. Voilà.
L'île de Gorée abrite également la première école ouest-africaine, l'école William Ponty, qui a vu passer de grands noms de la politique ouest-africaine, comme Félix Houphouët-Boigny, qui en est même sorti major.
L'ancienne école normale William Ponty, c'est là qu'on a formé les premiers cadres, ou bien les premiers présidents de l'AOF, Afrique occidentale française, Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, Modibo Keïta du Mali, Umar Maga, Bénin, Amadou Diori, Niger, Sylvestre Olympio, Togo, Mamoudou Dia, Sénégal, Lamine Gueye, Sénégal, et même il y avait Abdoulaye Wade, Sénégal, 1913 jusqu'à 1937. Après l'école, on l'a transféré à Rufusque, à Sébi Kotane.
L'histoire de Gorée est également liée à Blaise Diagne, le premier député noir du Sénégal en 1912. Un point de son histoire raconté par notre guide.
Là, c'est la maison où est né Blaise Diagne, le 13 octobre 1872. Son vrai nom, c'est Galaye Mbaye Diagne. Il est né musulman. Comme ça, à l'époque, c'était les écoles chrétiennes. Si tu n'es pas chrétien, tu ne seras pas admis dans cette école. Après, on l'a adopté à l'âge de 12 ans. Ils ont donné le nom de Blaise Diagne. Donc, il y a l'aéroport qui porte son nom. Il est décédé en France. Personne de cimetière n'a voulu de lui. Quand on l'a mené dans le cimetière musulman, les musulmans disent c'est un chrétien. Quand on l'a dans le cimetière chrétien, les chrétiens disent c'est musulman. Après, on l'a enterré dans un cimetière musulman, à l'entrée, mais pas à l'intérieur.
Il faut savoir que Gorée attire chaque jour des milliers de touristes comme Ernest, venu de la Belgique, désireux de s'imprégner de l'histoire de l'île.
On est venu là par hasard parce que c'est tout ce qu'il y a à visiter à Dakar. Donc quand on tape les meilleures visites, il y a l'île de Gorée. Et une fois qu'on est dedans, c'est vraiment sympa de voir un peu ce qui s'est passé, l'histoire de cette île-ci. On sait quand même comment ça s'est passé. Hein. Il y a cette film en Occident, on nous explique comment ça se passe depuis un bon petit bout de temps. On sait ce que c'est que l'esclavage. Ce qui était vraiment sympa, c'est voir quand même notre ami le guide là, qui nous parle tout à coup du massacre de la Shoah et qui nous parle de génocide dans les deux cas, et on se rend quand même bien compte qu'ils en font tout un plat de la Shoah, mais qu'ici, ils en parlent vraiment pas assez. Ça a été cata, hein, quand même, les déporter dans quelles conditions, comment ça s'est passé pendant 400 ans en plus de ça. C'est hard, et on n'en parle nulle part.
Aujourd'hui, Gorée vit principalement de sa culture et de son tourisme. Mohamed Koulibaly, résident de l'île, y présente des tableaux confectionnés avec du sable et nous fait une démonstration de son art.
C'est du sable qu'on a dans le pays limitrophe. Donc je vais vous présenter d'abord les différentes couleurs du sable. Donc regardez ce sable que vous voyez, ça c'est le sable de Casamance, c'est au sud du Sénégal. Nous avons là le sable de Lakro, c'est à 45 km Dakar. Le sable blanc, c'est le sable de Sali, c'est à 82 km Dakar. Le sable de l'île de Gorée, mais vers la plage. Le sable rouge, c'est le sable de Sahara. Le sable jaune, c'est le sable de Lompoule, c'est en Alavé Saint-Louis. Le Ténéré désert, Maroc, Algérie. Le sable vert, c'est le sable des îles de Saloum. Là, c'est au centre du Sénégal, c'est en Alavé la Gambie. Et le sable noir, c'est le sable de Mambel, où il y a le monument de la Renaissance africaine. Donc, comme colle, là, c'est la sève de baobab, mais qui est mélangée avec la gomme arabique. Je vais faire une petite démonstration. Je mets d'abord la colle. Après le dessin, je vais mettre les différentes couleurs du sable. Donc, au plus foncé au plus clair, contrairement à la peinture. Après, quand je vais le secouer, le sable va rester toujours, j'ai mis la colle. Voilà, il faut le secouer maintenant. Ça, c'est le résultat final, ça.
Wow.
Tous les tableaux que vous voyez sont faits de la même façon. Une fois c'est fixé comme ça, il faut le mettre au soleil pour que ça sèche.
En plus de ses œuvres, il y a la célèbre rue des Baobabs, connue pour ses créations artistiques et ses orchestres. Cette rue, bien qu'elle soit une attraction, constitue aussi une source de l'histoire.
Là, c'est l'allée au baobab. On utilise tout sauf le bois. Les feuilles avec du couscous, le fruit qui s'appelle le pain de singe, l'imodium leca, ça soigne la diarrhée. Avant, donc, il y avait une ethnie syrienne. Là, c'était leur cimetière. On creusait un trou à l'intérieur avec leurs biens. C'était les Français qui ont planté tous ces arbres, c'est pour camoufler les gros canaux qui sont en haut.
La plus grande attraction de l'île est le canon perché sur une falaise à l'est de l'île pointée vers la capitale sénégalaise, Dakar, et qui fascine par son histoire, comme le fait remarquer Alassane Barry.
Les canaux qui viennent de la France, Angoulême, en 1902, en pièces détachées. Pour assembler toutes les pièces, ça a pris 5 ans, 1902 jusqu'à 1907. C'était pour protéger toute la voie atlantique en cas d'attaque pour les autres pays, comme les Anglais, les Hollandais et les Portugais. 6642 tonnes de fer. Ça peut tirer jusqu'à 14 km à l'heure. Et ça tournait 360 degrés. C'était 42 personnes qui utilisaient à manœuvrer le canon. Voilà, on l'appelle le bunker. En dessous, il y a des gens qui habitent là-bas. Pour moi, tout le tiers est en dessous. Maintenant, en 58, ils partaient, les Français. Ils ont coupé le gueule du canon. Ils savaient que bientôt l'indépendance arrive. L'indépendance Sénégal, c'est 59. Mais on l'a déclaré 60. Donc ils l'ont dirigé face à Dakar, amené toutes les pièces maîtresses. Ils croyaient que nous, on va prendre les canons et les diriger vers eux. Ils l'ont saboté. Une fois si tu l'utilises, c'est Dakar qui va chuter.
La visite de l'île de Gorée nous plonge au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine, 400 ans de traite négrière qui ont marqué des générations et façonné des destinées. Chaque pierre de la maison des esclaves, chaque cellule, chaque porte des non-retours nous raconte l'horreur de la déshumanisation, la douleur des familles séparées et la lutte de ceux qui ont tenté de résister à cet esclavage inhumain.
Reportage
Radio de la Paix.